De Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Les jeunes et l'entreprise en quête de la Fondation Jean Jaurès auprès des 18-24 ans. Ils veulent du sens, de l'éthique dans leur futur job. Les grosses multinationales n'ont plus la cote, ils préfèrent les entreprises locales et ils n'ont pas la bougeotte, contrairement aux idées reçues. Un pas de plus vers sa candidature à la présidentielle. Pendant 2 heures à la télé hier soir, Emmanuel Macron a défendu son bilan, reconnu des erreurs. Il évoque une nouvelle réforme des retraites. Une intervention suivie au loin par Jean-Luc Mélenchon depuis la Guadeloupe. Pour être plus fort à l'international, naissance d'un nouveau géant du champagne, fusion entre 6000 vignerons et l'entreprise Nicolas Feuillatte. Le concert de Noël de Radio France, c'est ce soir sur France Musique, la 3e symphonie de Camille Saint-Saëns.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui musique déjà, le pianiste classique. Pop, rap, j'ai nommé Sofiane Pamart.
France Inter.
Les jeunes et l'entreprise, Laurence, leur rapport au travail a changé. C'est une des conclusions de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès.
Ils veulent donner plus de sens à leur labeur. Ils veulent appartenir à une entreprise qui s'engage pour la société. Une entreprise où ils pourront s'épanouir et évoluer. À l'occasion du Parlement des jeunes, ce rapport pointe les rêves et les aspirations des 18-24 ans. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Alors ce qui faisait rêver avant n'est plus forcément ce qui attire aujourd'hui. Il leur faut un mélange d'idéaux, de joie et de bonne humeur.
Les jeunes veulent désormais une entreprise où il fait bon vivre, basée sur le respect. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment que la bonne ambiance au travail est l'élément le plus important dans les rapports avec les collègues. Et puis fini les managers tyranniques, un jeune sur trois veut un chef capable de créer un environnement de travail épanouissant.
Et toujours parmi les changements, avec eux pas de greenwashing, les jeunes veulent aussi des entreprises investies, notamment dans la protection de la planète.
37% des jeunes interrogés estiment que les entreprises doivent être utiles pour la société et doivent s'engager sur des projets, l'environnement en tête. Autre point, les entreprises du CAC 40 ont moins la cote. Seuls 13% des sondés rêvent d'en rejoindre une. Ce qui fait le plus envie aujourd'hui, ce sont les entreprises locales. Elles attirent 39% des jeunes.
Des jeunes qui cependant restent lucides sur le monde du travail.
Et reste attaché à des besoins fondamentaux, Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès.
Stabilité, argent, une entreprise est d'abord et avant tout là pour embaucher et pour créer de l'emploi, comme le disent des jeunes quand on les interroge. Donc il y a quand même un retour aux fondamentaux. Cette question du salaire reste en tout cas au cœur et en tête des préoccupations et des attentes des jeunes français quand on les interroge sur le monde du travail et sur leur avenir professionnel.
Et si vous pensiez que la jeune génération avait la bougeotte, erreur, 30% d'entre eux espèrent rester au sein de la même entreprise toute leur carrière.
Merci Kathleen Comte. Des réformes économiques au Covid-19 en passant par les gilets jaunes. Emmanuel Macron a défendu hier soir pendant 2 heures sur TF1 et LCI le bilan de son quinquennat. Sans surprise, il n'a pas répondu comme prévu à la question de savoir s'il se représentait ou non à la présidentielle dans 4 mois. Mais, dit le quasi-candidat, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait tout faire en 5 ans. Je projette le pays à 10 ans. Autrement dit, pas encore candidat, mais déterminé à réformer la France. Il a réitéré sa volonté de transformer les retraites. Une séquence télévisée, suivie à des milliers de kilomètres par Jean-Luc Mélenchon, juste avant son premier meeting de campagne en Outre-mer, un déplacement aux Antilles cette semaine, à la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Gosier. 700 personnes, dans un contexte de grande défiance vis-à-vis de l'Hexagone. Son meeting était très attendu et l'occasion était trop belle pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de l'Union Populaire n'a pas manqué de répondre au président de la République. C'est le reportage de notre envoyé spécial Laurence Perron.
Décalage horaire oblige, le président de la République a fini de parler depuis plus d'une heure lorsque l'insoumis en chef monte sur la scène du Royal Riviera de Gosier.
Un discours auto-centré, nombriliste, c'est pas que cet homme ne soit pas intelligent, il l'est. Parce que ce qu'il a à proposer, c'est ce qui s'est cassé la figure partout, c'est-à-dire le néolibéralisme.
Pas question de revenir sur le fond de l'intervention d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est là pour faire campagne et avec la situation sociale doublée de la crise sanitaire, il joue clairement sur du velours. La visite du ministre des Outre-mer a été perçue ici comme très désinvolte.
Quand à la fin quelqu'un vient ici, c'est pour traverser le territoire en courant et d'une manière tellement offensante que vous êtes plus enragé après qu'avant.
Revendiquant son statut de vacciné, il exige néanmoins pour le millier de soignants suspendus ici
que l'on fasse l'amnistie.
Il flatte son auditoire prophétisant.
L'Hexagone ferait bien de se rendre compte qu'il est terriblement guadeloupéen.
Parle de créolisation et s'en prend à Éric Zemmour.
Dans les années 58, quand la Constitution a été promulguée, 1 sur 10 avait un grand-père étranger. Et bien aujourd'hui, c'est 1 sur 4. C'est la vie, c'est l'amour. Ha. Monsieur Zemmour, quoi, faites un effort.
Avant de conclure lapidaire.
S'il vous plaît, le 10 avril prochain, déchouquez Monsieur Macron.
Pointe-à-Pitre, Laurence Perron, France Inter.
Et ajoutons qu'Éric Zemmour sera l'invité de la matinale de France Inter tout à l'heure à 8h20. Emmanuel Macron qui n'a pas exclu hier soir la vaccination obligatoire pour tous contre le Covid. L'État, en tout cas, prépare de nouvelles mesures face à la crise sanitaire qui dure. Nouveau conseil de défense sanitaire demain après-midi, alors que la cinquième vague a fait plus de 65 000 contaminations en 24 heures. Mais pas de couvre-feu ou de reconfinement ou d'interdiction de déplacement en vue. Une autre piste évoquée, celle du renforcement des mesures dans les EHPAD. On y reviendra dans le journal de 8 heures. La centrale nucléaire de Chaux dans les Ardennes à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. Une précaution d'EDF pour vérifier d'éventuels défauts du circuit de refroidissement de secours après ceux détectés sur la centrale de Civaux dans la Vienne, équipée du même type de réacteur. Le petit monde du champagne est en ébullition. Les champagnes Nicolas Feuillat et la coopérative régionale des vins de Champagne fusionnent après 2 années de négociations. Un événement sans précédent en Champagne depuis 25 ans. Ce nouveau géant est baptisé Agnès Soubiran, terroir et vigneron de Champagne.
Cap sur l'international, c'est clairement l'objectif de ce nouveau groupe qui rassemble désormais 6000 vignerons sur près de 3000 hectares, soit 9% du vignoble champenois. Il faut bien avouer que les gisements de croissance se trouvent désormais à l'export, estime la présidente du groupe, Véronique Blin, alors que les ventes en France baissent depuis 13 ans. Marque phare de ce nouveau groupe et déjà leader sur le marché français, Nicolas Feuillat, entend se positionner dans la catégorie luxe accessible avec des bouteilles à partir de 19 euros. L'image du champagne Castelnau doit encore être développée. Quant à la maison Abelé 1757, qualifiée de pépite de luxe artisanal, elle conservera un fonctionnement autonome. Les 300 salariés sont appelés à se mettre très vite au service des équipes commerciales et marketing, car avec un potentiel de 24,5 millions de bouteilles par an, l'ambition du groupe est d'atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et de monter très vite sur la deuxième place du podium, derrière LVMH et ses marques Moët & Chandon, Ruinart et Veuve Clicquot, mais devant Laurent Perrier et le groupe Pernod Ricard. Et son champagne Moum.
Agnès Soubiran, après le coup de froid commercial et diplomatique de l'automne dernier entre l'Australie et la France, lorsque l'Australie et les États-Unis avaient torpillé la vente des sous-marins français, Qantas va abandonner l'américain Boeing pour Airbus, accord de principe entre la compagnie aérienne australienne et le constructeur européen pour l'achat de 134 A320 et A220. Tous les pêcheurs des Hauts-de-France, de Normandie, de Bretagne vont-ils pouvoir continuer à poser leurs filets dans les eaux britanniques et surtout, quels poissons vont-ils pouvoir pêcher l'année prochaine et dans quelle quantité. Tout à l'heure, le 13-14 de France Inter ira à la rencontre des premiers concernés, de tous ceux qui vivent de la filière sur la Côte d'Opale. Parmi eux, Jérémy Lommel, 34 ans, il n'a pour le moment toujours pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. Son témoignage au micro de Thibault Lefebvre.
Je suis dégoûté, oui, bah oui. Depuis l'année dernière, on n'a pas été dans les eaux anglaises, on a perdu 12 mois d'activité de pêche dans les eaux britanniques. On a donné tout ce qu'on pouvait, et, vous voyez, tout est répertorié sur l'ordinateur. Mon père a ses carnets qui remontent depuis 20-30 ans. On note tous nos points GPS, on a donné tout ce qui était en notre pouvoir. C'est ça qui est écœurant. On va dire qu'on perd concrètement 30 000 euros par mois au minimum. J'ai une femme et 2 enfants, on a dû repartir vivre chez ma sœur en attendant que les joueurs soient meilleurs. C'est un métier de passion, vous savez, marin pêcheur, généralement c'est de génération en génération. Mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça, moi je fais ça. Et j'espère que mon fils ne le fera pas, parce que quand je vois déjà la situation qu'on est, c'est très compliqué, je ne voudrais pas qu'il fasse ça.
Et ne manquez pas le 13-14 de Bruno Duvic tout à l'heure sur France Inter auprès des pêcheurs de la Côte d'Opale. Moins de morts, mais davantage de détentions arbitraires contre les journalistes en Chine, en Birmanie, au Vietnam. Reporters sans frontières publie son bilan annuel. En 2021, 488 journalistes et collaborateurs de médias sont emprisonnés. 46 journalistes sont morts pour avoir exercé leur métier. Et le Mexique et l'Afghanistan demeurent encore cette année les deux pays les plus dangereux pour les journalistes. Il était considéré comme le doyen des Français. Marcel Meiss est mort avant-hier. Il avait eu 112 ans en juillet dernier, mais il était hospitalisé depuis début décembre à cause du Covid. Le centenaire avait vécu toute sa vie dans la région de Vienne, au sud de Lyon. Faustine Calmel, son portrait.
Son premier souvenir, c'est de voir son père partir. Nous sommes en 1914 et Marcel Meiss n'a que 5 ans alors que débute la Première Guerre mondiale. À la suivante, en 1939, il est ambulancier. Installé à Vienne, en Isère, il transporte discrètement des résistants ou prête des voitures. Son garage lui sert de couverture. À la retraite, depuis 54 ans, veuf, il vivait toujours chez lui, dans sa maison de Saint-Romain en Galles, sur les bords du Rhône. Jaloux de son indépendance et de sa liberté, à ceux qui lui lui demandait son secret de longévité, il répondait « les parties de Scrabble pour garder toute sa tête et un penchant raisonnable pour la clairette de Die ». En apprenant son tout nouveau statut de doyen des Français en octobre dernier à la mort du Martiniquais Jules Théobald, Marcel Meis répondait à son interlocuteur par un trait d'humour « est-ce que nous connaissons déjà le nom de mon successeur ?»
Faustine Calmel. C'est ce soir sur France Musique, le traditionnel cadeau de Noël de Radio France, avec la 3e symphonie de Camille Saint-Saëns, née il y a exactement aujourd'hui 100 ans à Alger. Concert de Noël en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique avec l'Orchestre National de France, Stéphane Capron.
La 3e symphonie est certainement la plus célèbre des œuvres de Saint-Saëns après le Carnaval des animaux et la danse macabre. Elle a été créée à Londres en 1886. C'était une commande de la Royal Philharmonic Society. Saint-Saëns l'avait dédiée à son ami Franz Liszt, qui avait désigné le compositeur français comme le plus grand organiste au monde. C'est un autre grand organiste, Olivier Latry, le titulaire des orgues de Notre-Dame, qui s'attaque à cette œuvre monumentale.
C'est la première pièce que entendu pour orgue et orchestre. Alors déjà ça marque quand même. Et puis ça reste important parce que justement, Saint-Saëns, qui était lui-même organiste, a su, dans cette pièce, utiliser l'orgue pour ce qu'il était capable de faire. Ça se marie tellement bien avec l'orchestre, donc il connaissait ce genre de situation périlleuse pour l'orgue et pour les organistes. Donc il valait mieux écrire quelque chose qui ne soit pas trop volubile, virtuose, etc., et qui s'intègre comme ça à l'orchestre. Le fait de suivre notamment dans l'adagio, d'accompagner comme ça les cordes, à chaque fois je trouve ça absolument magique.
L'orgue n'intervient que dans deux mouvements de la symphonie. Il donne toute la puissance au final. Il rivalise avec les cuivres et les percussions. Cette symphonie est tout simplement une œuvre volcanique.
La 3e symphonie de Camille Saint-Saëns est ce soir à suivre sur France Musique à 20h.
Merci Laurence Thomas. Il est 7h42.